L'angoisse de la nuit qui tombe. L'impression terrible que cela bouge dans la chambre. Il est revenu ce cauchemar. Oui, cela remue dans le placard. Papa et maman m'ont bien dit qu'il n'y avait rien dans l'armoire. Pourtant moi, je le vois, je le sens. Cela remue, cela gigote. La bête est de nouveau là pour abîmer mon sommeil. C'est le fruit de mon imagination, ils me disent. Mais non, elle est bien là. Sans un bruit, je me cache sous mes draps. Je bloque mon souffle. Cela tourne dans ma tête. Mon cœur cogne. Puis le cri. Vite, appelez quelqu'un. Ils arrivent dans ma chambre. La lumière. Tu vois bien, il n'y a rien. Mais la bête est maligne. Quand un adulte arrive, elle se rend invisible. Vous vous rappelez peut-être ce sentiment d'effroi, de boule au ventre lors des terreurs nocturnes enfantines. Eh bien, il me semble que ce sentiment d'inconfort, nous le ressentons de nouveau à l'écoute de ce drôle de texte. Dans la description précise de la bête, dans cette montée de cet animal improbable, venu de la mer avec un dragon à ses côtés. Mais peut-être ce qui impressionne le plus dans ce texte, c'est que la bête gagne. Elle arrive à ses fins. Et elle n'a pas de limite. Le sort de ses ennemis semble scellé. Les prisonniers le resteront. Ceux qui doivent passer par le fil de l'épée le seront aussi. Alors ce texte de l'Apocalypse est-il un mauvais cauchemar ? Vite, rallumons la lumière et passons à autre chose. Ou alors on peut essayer d'apprivoiser la bête en appréhendant ce récit tellement torturé. Essayons la deuxième proposition. Première constatation, ce texte a bien été écrit pour susciter de l'émotion. Les descriptions précises et imagées créent ce climat étouffant et sombre, un climat de péril. Il est donc un texte plus à ressentir qu'à comprendre. Deuxième constatation, ce passage s'insère dans une imagerie mise en place déjà dans les chapitres précédents du livre de l'Apocalypse. Mais il prend aussi sa source dans les prophéties de Daniel. Vous connaissez peut-être Daniel. Daniel était un prophète. Il y a un livre qui porte son nom dans le Premier Testament. Nous en lisons quelques versets du chapitre 7. Daniel parle. Je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les quatre vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. Quatre bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes, comme un homme. Et un cœur d'homme lui a été donné. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait trois côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de viande ». Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait quatre ailes sur le dos, comme celle d'un oiseau. Cette bête avait quatre têtes et la domination lui a été donnée. Vous avez reconnu peut-être tous les animaux qui sont cités en Apocalypse 13. Alors, pour Daniel, les quatre bêtes symbolisent les empires persécuteurs du peuple de Dieu. Babyloniens, Mèdes, Perses et Grecs. Ces empires qui, à tour de rôle, ont opprimé Israël. Et dans l'Apocalypse, toutes ces bêtes n'en font plus qu'une pour l'envahisseur, pour le détester, pour l'Empire romain. C'est vrai que souvent, dans la souffrance, l'adversaire est personnifié. Cela aide peut-être à le cerner, à mieux le combattre, à lui résister. Dans les milieux chrétiens, la bête de l'Apocalypse est souvent identifiée comme l'Antéchrist, celui qui est contre ce Christ sauveur. Martin Luther, notre réformateur, utilisait beaucoup cette image. L'Antéchrist, pour lui, avait les traits du pape Léon X, qu'il avait excommunié, en raison des thèses, vous le savez, que Luther avait formulées contre la papauté et le système des indulgences. Alors, je vous propose d'écouter ce que Luther écrit à propos de son ennemi, l'Antéchrist, le pape Léon X. Une petite information avant de commencer, si vous en avez assez de ce vocabulaire, bouchez-vous les oreilles parce que Luther n'y va pas de main morte. Je cite donc Martin. « On m'apprend qu'une bulle a été lancée contre moi. Le monde la connaît, elle n'est pas venue jusque ici. Peut-être que, fille de la nuit, elle aura eu peur de me regarder en face. » Enfin, il m'a été donné de la voir, cette chouette, et dans toute sa beauté. En vérité, je ne sais si les papistes se moquent de moi. Celui qui a écrit cette bulle, je le tiens pour l'Antéchrist. Je le maudis comme une insulte et un blasphème contre le Fils de Dieu. Amen. Je reconnais, je proclame en mon âme et conscience comme vérité les articles qui y sont condamnés. Je voue tout chrétien qui la recevrait, cette bulle infâme, aux tortures de l'enfer. Je le tiens pour païen, pour l'Antéchrist en personne. Amen. Voilà comme je me rétracte, moi. Bulle, fille d'une bulle de savon. Mais dis-moi donc, ignorantissime Antéchrist, tu es donc bien bête pour croire que l'humanité va se laisser effrayer par toi. S'il suffisait pour condamner de dire « Ceci me déplaît, non, je ne veux pas. » Mais il n'y a pas de mulet, d'âne, de taupe, de souche qui ne pût faire le métier de juge. Quoi ? Ton front de prostituée n'a pas rougi d'oser ainsi avec des paroles de fumée ? Se prendre aux foudres de la parole divine. Voilà les paroles de Luther, qui va droit au but, qui n'épargne ni l'insulte ni l'outrage. Alors bien entendu, tout en déplorant ces écarts, il faut bien resituer le contexte de l'époque et les puissants adversaires qui l'attaquent. Le 10 décembre 1520 marque le paroxysme de la bataille. Ce jour-là, toute la ville de Wittenberg, comme au temps des grandes solennités, était en émoi. La vieille basilique regorgeait de fidèles. À l'une des portes de la cité, un bûcher était dressé. À l'heure indiquée, au son du bourdon lancé à toute volée, Luther descend de la chaire de la cathédrale, suivi des professeurs et des écoliers. Se dirige vers le bûcher, il l'allume et le hardi docteur y jette la bulle de Léon X, la somme de saint Thomas et les décrétales des papes et les écrits d'Eck, le porteur de la bulle papale. Pour résister à la bête, à sa bête, Luther choisit la lutte, œil pour œil, dent pour dent. Dans l'histoire, d'autres ont choisi le pacifisme, ce que notre texte appelle la persévérance. On peut penser, dans notre histoire des protestants, à l'exemplaire Marie Durand, enfermée 38 ans à la tour de Constance, refusant d'abjurer sa confession prétendue réformée. Marie Durand fut, elle, un modèle de persévérance dans la foi, une figure de résistance pacifique. L'histoire lui attribue d'avoir gravé le verbe « résister » sur la pierre dans sa prison. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu de leurs yeux. Sa bête, à elle, c'était l'intolérance religieuse. Résister à la bête, voilà le défi. Nous avons vu deux exemples historiques de résistance, exemples très différents. Il n'y a pas de modèle de résistance chrétienne. Ce qu'il est important, il me semble, de faire en premier lieu, c'est d'identifier ce que nous devons combattre. C'est la question du semainier. À quoi devons-nous résister ? Dans notre texte de l'Apocalypse, la bête semble identifiable, mais il y a toujours une phase de discernement. À quoi aujourd'hui nous résistons au nom de l'Évangile ? Au cours de l'histoire, on a vu des groupes partir sabre au clair contre des idées. La terre est ronde. Et pour se rendre compte bien après que c'était un mauvais combat. Aujourd'hui, ce seraient peut-être les débats éthiques qui agitent nos sociétés et nos églises. Les positions chrétiennes peuvent se cristalliser, peuvent se rencontrer, se heurter. Fin de vie, bénédiction des couples de même sexe. Certains voient ici clairement une bête montée de la mer dans le groupe qui n'a pas le même avis que lui. Attention, danger. Oui, danger, on le sait, souvent, parfois, les mauvais partis peuvent être les plus séduisants. Comme le dit le texte, la bête, dans son arrogance, exerce une fascination sur le plus grand nombre. Cette attirance pour le verbe « haut » peut parfois s'amener à s'égarer. Celui qui crie le plus fort n'est peut-être pas celui à suivre. Que faire ? Que dire ? Les solutions sont peut-être à trouver encore dans la persévérance du dialogue, dans la prière, dans l'échange et l'écoute, la réflexion. Surtout, ne pas se laisser gagner par l'actualité des sujets, se recentrer sur l'essentiel. Cette parole qui, oui, nous fait vivre. Cette parole qui écrase nos bêtes intérieures. Et cette parole aussi qui fait vivre l'autre, pour lui laisser de l'espace en moi. Et Dieu dans tout cela. Vous avez peut-être retenu ce verset difficile à la fin du texte où Dieu ne retient que celles et ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et les autres alors ? On peut noter aussi que le temps de notre bête friante de l'Apocalypse est limité. Vous l'avez entendu, elle mène la guerre pendant 42 mois. C'est long, mais c'est très court face à l'éternité de Dieu. Voilà la bonne nouvelle pour chacun de nous ce matin. À celles et ceux qui ressentent cet assaut de la bête, il est promis une délivrance. Le combat ne durera pas éternellement. La bête n'aura pas le dernier mot. Il y a cette promesse donnée que tout s'arrêtera un jour pour une paix éternelle. C'est une lueur d'espoir face à la résistance de cette bête immonde. Le combat aura une fin. Comme le cauchemar de la nuit s'envole aux premières lueurs du jour, notre guerre finira. Une autre bonne nouvelle est allumée par le verset 6. La bête ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle et ceux qui vivent dans le ciel. En tout premier lieu, la bête s'attaque donc à Dieu. Il souffre lui-même de ses assauts. Ainsi, il ne nous laisse jamais seuls pour combattre. Il est lui aussi touché, exposé et opposé à tout mal. À nos côtés et en nous, il combat avec nous. Le mot Apocalypse signifie révélation de Dieu. Cette révélation nous est donnée. Dieu habite en nous. Il souffre avec nous et il combat avec nous. Sa tente, son tabernacle, est dressé au plus profond de nos cœurs, au milieu de l'humanité. C'est une tente fragile, mais ô combien tenace. Il est un Dieu, c'est vrai, souvent blessé et mordu par la cruauté et la bêtise de la bête. Mais il est aussi un Dieu présent en Jésus-Christ, rempli de promesses, plein de persévérance et de confiance. Il a été révélé au milieu du chaos en ces mots du chapitre 7 de notre livre de l'Apocalypse. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen.